Image, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour tout le monde, Remue Ménage ce mercredi après-midi est au rendez-vous et aujourd'hui comme thème entier de notre émission, la femme algérienne. Et oui, j'ai dans le studio avec moi Annette et Evelyne de l'Inédite qui ont accepté de parler de la femme algérienne dans les livres qu'elles ont choisis puisque c'est leur habitude maintenant depuis quelques fois de nous présenter des livres qu'elles aiment. Mais cette fois-ci, c'est moi qui leur ai proposé un thème, la femme algérienne et le prétexte à cette discussion autour de deux livres. C'était la venue à Genève des sœurs Djourdjoura, chanteuses algériennes. Alors, tout à l'heure, dans quelques deux chansons, la femme algérienne, les Djourdjoura et l'Inédite.
She's welcome. All the time she protects you. Now you're not the one she's thinking of. And she gets so damn, damn, damn. And I see she's drowned. And love moves around and round. And I see she's drowned. She touches, gets a found, and she gets a damn, 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 and see she's drowned. And love moves around and round, and see she's drowned. See she's drowned. And love
Edith Piaf interview 1956, 57, 58. Sacha Gabor, Daniel Darieux. Je l'ai dans la peau pour vivre aussi qu'en amant. Je ne fais que désobéir. Je n'ai fait que désobéir. Toute ma vie, j'ai 20 paires de gants, 40 chapeaux. Jean Cocteau ne parle pas, il bredouille. On dirait qu'il parle avec des ailes.
C'était Ingrid Cavan qui chante Piaf et la chanson un peu particulière que vous venez d'entendre, c'est l'utilisation d'interviews qui auraient été faites de Piaf et qu'elle a essayé de mettre, elle, en chanson. Ce n'était pas une chanson de Piaf en particulier. Juste avant, vous avez entendu Hollybeth Vincent dans Revenge. Et maintenant, nous partons pour quelques notes du concert de samedi soir avec les Djurdjura.
Need to feel safe.
C'était les Djurdjuras samedi soir lors du concert qu'elles ont donné à l'occasion des Assises européennes sur le droit d'asile. Peut-être étiez-vous à ce concert magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de gens, hélas, pour des questions techniques. On avait dû changer de salle à la dernière minute et peut-être beaucoup de gens ont perdu un peu le fil du lieu où se trouvait ce concert. Mais il y avait en tout cas une atmosphère très, très chaleureuse entraînée par les Djurdjuras. Moi, j'ai eu un petit peu quelques problèmes à avoir mon interview, je reconnais. J'ai dû attendre longtemps pour obtenir finalement que Djura, qui est l'âme des Djurdjuras, me parle l'espace de, disons, 15 minutes, mais tout ça, même pas une demi-heure avant qu'elle se retrouve sur scène. Donc, il faut dire que les choses étaient très, très coincées et qu'elle nous a promis que lors d'un probable retour au printemps en Suisse, eh bien, on se causera plus longtemps. Vous connaissez Annette et Evelyne, les Djurdjuras ?
Non, je n'ai jamais eu l'occasion de les écouter, sinon maintenant.
Alors, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Annette et Evelyne, que je remercie d'être de nouveau dans notre studio, je leur ai proposé de bien vouloir, autour de cette interview, nous choisir des livres qui évoquent la femme algérienne. Alors, elles nous en parleront tout à l'heure. Peut-être on peut déjà juste annoncer en deux mots les deux livres que vous nous avez choisis, Annette.
Alors, j'ai choisi, donc, je pourrais préciser peut-être, dans le rayon « Femmes d'ailleurs » de la librairie L'Inédite, un livre de Noria Alami qui s'appelle, dont le titre est « Voilée, dévoilée ». Un sous-titre, « Être femme dans le monde arabe ». Et c'est édité par L'Armatan, qui est d'ailleurs une maison d'édition dont nous avons plusieurs livres et qui, dans le monde moderne, essaye de mettre un certain nombre de documents dans les mains de tout le monde.
Et en deux mots, c'est l'étude d'une psychanalyste, donc, puisque Noria Alami, bien qu'étant d'origine algérienne, vit en France, donc, mais elle essaie de faire une sorte d'analyse un peu par le biais de sa fonction.
Alors, effectivement, cette jeune femme est d'origine algérienne, est en fait une médecin psychanalyste et elle a pas mal d'expérience elle-même dans le domaine de la psychothérapie de jeunes femmes et entre autres de jeunes enfants algériennes. Mais son livre, comme on le démontrera dans quelques instants, est une analyse aussi bien historique que psychanalytique.
Evelyne, quel est ton livre ?
Mon livre, il a un titre tout à fait représentatif qui s'appelle « L'âge de l'ombre ». Et celle qu'il a écrit, Marieke Okant, ou Aukante, je ne sais pas très bien, j'avais de la peine d'ailleurs à déterminer son origine avant d'avoir lu le livre, est française. C'est un livre publié chez Flammarion, qui a déjà quelques années, puisqu'il est de 1981. Mais à voir avec, avec quelle lenteur les choses changent dans ce monde méditerranéen particulier qu'est l'Algérie, je ne crois pas que l'expérience qui est relatée dans ce livre soit dépassée aujourd'hui. Je pense qu'elle est encore tout à fait valable. Et je l'ai choisi parce que sur la couverture, il était raconté qu'il s'agissait de l'aventure d'une Européenne qui veut partager la vie d'un groupe de femmes voilées du sud algérien. Alors, il est évidemment pour moi plus facile de m'identifier à une Européenne qui essaye d'entrer dans une culture autre que la sienne que m'identifier à un auteur qui est déjà de l'autre culture. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Je dirais que de toute façon, nous, Annette et moi, quand nous avons cherché nos livres, nous n'avons pas trouvé des centaines de livres sur l'Algérie.
Ah non, pas du tout.
Nous étions contentes d'en trouver une douzaine sur les rayons dans lesquels choisir. Et la majorité étaient quand même des livres qui se référaient à la politique contemporaine de l'Algérie ou à l'histoire de la guerre d'Algérie. Il y avait assez peu de choses, même à l'inédit, sur les femmes proprement dites.
Mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir choisi ces livres pour nous. Alors tout de suite, peut-être qu'on va d'abord se retrouver avec les Djourdjoura et puis ensuite on reviendra à vos livres. Alors les Djourdjoura, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de femmes algériennes à l'origine et c'est ce qu'on trouve en tête de leur premier disque, leurs trois premiers disques, dont le premier a été édité en 1979. Le groupe s'est créé à ce moment-là, donc ça fait 10 ans qu'il existe. Ces trois femmes à l'origine, c'était Djourdjoura et deux de ses sœurs. Les deux sœurs ont changé en cours de route. Elle m'a dit qu'à un moment donné, ça a été sa tante. Et maintenant, aujourd'hui, c'est deux amies à elle, plus jeunes, qui sont d'ailleurs entre elles sœurs, mais qui ne sont pas sœurs de Djourdjoura. Donc, les femmes du groupe ont changé. Djourdjoura reste le pilier du groupe. Djourdjoura, d'ailleurs, était à l'origine une cinéaste algérienne et qui a dû quitter l'Algérie très tôt en tant qu'enfant. Elle vous le dira à un moment donné de notre récit avec elle. Mais bien que vivant en France, elle a toujours gardé sa langue qui n'est pas l'arabe. Sa langue à elle, c'est le berbère, puisqu'elle est d'origine kabyle. Et la Kabylie, c'est cette région d'Algérie dont peut-être vous avez entendu parler parce que c'est un peu le foyer de la lutte de libération de l'Algérie au moment de l'occupation par la France et au début de la guerre d'Algérie. C'est de là que sont parties les premières monnaies de libération. Et les Kabyles, effectivement, ne parlent pas arabe, ils parlent berbère à l'origine. Comme tout le Maghreb, d'ailleurs, comme tous les pays du nord de l'Afrique, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. Et les Kabyles ont cette particularité qu'aujourd'hui, ils revendiquent encore le droit de parler berbère et de continuer à faire vivre leur culture, qui l'est d'ailleurs très concrètement, dans le sens où il y a une musique kabyle, il y a cette langue qui est très vivante, que les gens parlent tous les jours dans les villages, et qu'ils aimeraient voir être aussi représentés dans les émissions de radio, les émissions de télévision, encore enseignées dans les écoles, ce qui, hélas, n'existe pas beaucoup au sein de l'Algérie moderne. Et donc, c'est un conflit entre l'Algérie moderne et la Kabylie. Alors Djourdjoura, c'est aussi un groupe de femmes, bien sûr, qui se met au service des femmes et qui se met au service de la culture de la Kabylie, la culture du Maghreb berbère. À coup de quoi elles ont décidé de battre ? Eh bien, c'est étonnant. Elles ont décidé de se battre à coup de chansons. Bon, on connaît déjà, de faire une musique qui soit un engagement sans compromis, quitte à ce que, comme c'est le cas, elle soit interdite dans leur propre pays, l'Algérie. Elle disait d'ailleurs, Djourdjoura était le moyen le plus efficace et le plus rapide pour diffuser la poésie et le trop-plein d'images que j'avais en moi. C'est pour ça qu'elle abandonne le cinéma et se met à la chanson. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien sûr les femmes essentiellement qui sont leurs préoccupations et qu'elles ont décidé de soutenir dans leurs chansons et dans leurs luttes. Alors c'est la femme algérienne bien sûr, mais c'est aussi la femme maghrébine, c'est les femmes musulmanes, mais c'est aussi toutes les femmes.
Et le groupe Djourdjoura, je voulais témoigner effectivement pour les femmes algériennes, pour les femmes arabes, pour les femmes du monde entier, en fin de compte. Parce que finalement, il y avait un dénominateur commun, c'est que les femmes sont une autre minorité dans le monde. Bien qu'elles soient la moitié du ciel, comme on dit, eh bien, elles ont encore un chemin à parcourir avant d'être reconnues vraiment comme des êtres humains à part entière. Alors il y a évidemment des combats qui sont menés dans différents pays et qui sont reconnus et qui commencent à aider l'émancipation des femmes, mais il y a des pays où, malheureusement, c'est encore... tout est à faire, quoi. Alors, en faisant Djourdjoura, j'ai voulu témoigner pour les femmes, et j'ai voulu aussi témoigner de ma vie. Parce que, finalement, je suis comme les femmes de notre pays, c'est-à-dire que j'ai été éduquée selon certaines règles, selon certaines contraintes, et comme je suis quelqu'un qui a envie de dire, qui a envie de m'exprimer, et que l'art a été toujours profond en moi, eh bien j'ai choisi l'art pour m'exprimer, justement, pour cette cause qui est la cause des femmes.
Mais qu'en est-il aujourd'hui de la situation des femmes en Kabylie ou en Algérie? Parce que beaucoup, on a bien sûr beaucoup entendu parler, elles ont eu la situation de toutes les femmes musulmanes, et puis il y a eu la guerre où elles se sont engagées aux côtés de leurs frères, maris, pères, etc. Et puis on a eu l'impression qu'aujourd'hui, elles sont retournées dans leur cour, derrière leur voile. Qu'en est-il?
C'est-à-dire que pour parler de la condition des femmes en Algérie, il faudrait peut-être prendre point par point. Alors évidemment, on n'a pas le temps de faire aussi toute cette historique-là, mais une autre fois certainement. Mais en tous les cas, il faut étudier leur vie quotidienne. Il faut étudier leur place dans la société d'aujourd'hui. Et en même temps, effectivement, leur passé, parce qu'elles ont quand même participé, il n'y a pas si longtemps, à la lutte de libération nationale. Donc elles ont vraiment milité pour l'indépendance de l'Algérie. Et effectivement, après cette indépendance, en 1962, elles ont cru qu'elles auraient des droits. Elles ont cru qu'elles seraient libres. Et puis, finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et effectivement, maintenant, elles sont revenues derrière leur casserole. Et elles, pour beaucoup, elles ont repris le voile. Et puis, il y a toujours une espèce d'intégrisme, vous savez, qui est latent et qui est toujours de plus en plus contraignant. Alors, on a envie que ça change. Il y a un domaine dans lequel ça a plutôt mieux marché que les autres, c'est la scolarisation. Parce qu'il y a énormément d'enfants, qu'il fallait quand même les scolariser, parce qu'on ne peut pas les laisser dans la rue. Alors, quelques jeunes filles, et encore dans les campagnes, ça a été difficile, parce que les esprits sont quand même restés arriérés. Et pour leur faire admettre que leur fille peut aller à l'école et peut accéder au savoir, c'est toujours le savoir est quelque chose qui fait peur. Alors, on envoie les petites filles à l'école jusqu'à l'âge de 8-10 ans, et puis après, on leur apprend quand même à être des femmes, à tenir un foyer, et à être des futures épouses et des futures mères. Alors voilà, on en est là, et puis j'espère qu'avec des nouvelles choses qui vont se produire, avec des femmes qui vont se manifester, eh bien, les choses vont changer.
Est-ce que vous avez l'impression que vos chansons, je ne sais pas, quand vous chantez une chanson de votre dernier disque, les électroménagères, halte là, vous allez bousculer un petit peu justement ce qui se passe dans ces pays-là et que grâce à vos chansons, ça va faire un petit peu changer les mentalités?
Moi, je ne sais pas si grâce à mes chansons, les mentalités vont changer. Bon, il y a un Chilien qui disait, on ne fera pas la révolution avec des chansons, mais on la fera en chantant. Alors, moi, je suis persuadée que de toute façon, il en restera quelque chose.
Sois la bienvenue, petite fille. Sois la bienvenue, toi qui nous apportes la paix. Lorsque tu es née, tes parents ne te voulaient pas. Je te souhaite longue vie. C'est toi qui apportes le bonheur. Bienvenue à toi, petite fille. Tu allais chercher de l'eau. Tu étais bonne à tout faire, indispensable à la maison. Ma fille, la vie a changé. Tu es maintenant l'égale de tes frères. Bienvenue à toi, petite fille. Aujourd'hui, c'est jour de fête. La chance est écrite sur ton front et ton destin est clair. Nous tirons pour toi les coups de barreau et comme nous l'avons fait pour ton frère, désormais, la naissance sera un jour de joie. Bien sûr, c'est la chanson que vous venez d'entendre, mais qui chante une chose qui n'est encore pas vraiment une réalité en Algérie ni dans aucun pays arabe. C'est la naissance d'une petite fille. Et au contraire, je crois, dans d'autres chansons que les Djourdjoura ont interprétées avant, elles marquaient la tristesse et l'horreur qu'il régnait dans la maison lorsque une petite fille naissait. Evelyne, tu me montres ton livre. L'héroïne de ton livre va vivre cela ?
Ce n'est pas l'héroïne, mais il y a un accouchement dans la maison où elle habite avec ce groupe de femmes. Je raconterai après comment elle y est arrivée. Et effectivement, c'est une... Bon, le mari n'a même pas participé au... Il travaille à Constantine et ses femmes habitent dans le sud algérien. Il vient une fois tous les deux mois. Donc il a très peu vu sa femme enceinte pour commencer. Et il revient peu de temps avant qu'elle accouche pour un enterrement. Mais il ne reste pas pour l'accouchement, bien qu'il soit imminent. Bon, ça c'est une première chose. À ce moment-là, on ne sait pas encore ce qu'elle va accoucher. Elle accouche finalement toute seule d'ailleurs avec juste une sage-femme. Deux jours, heureusement, parce qu'on dit bien dans le livre, si l'accouchement avait tourné mal et que ça soit passé de nuit, eh bien, elle en serait morte parce qu'il n'était pas question de l'emmener à l'hôpital sans l'accord du mari. Enfin, elle a eu de la chance, elle a trouvé la sage-femme qui ne travaille que le jour, qui est venue l'aider. Elle accouche d'une fille en plus un peu disgracieuse. Et on met assez de temps, en fait, à prévenir le père. Et le père viendra juste deux jours la voir. Et... il offrira, c'est vrai, une bague à sa femme, mais par l'intermédiaire de sa mère, même pas directement. Et d'ailleurs, il va à peine soulever l'enfant et le reposer, et disons, ce sera la seule connaissance qu'il fera avec sa fille.
Alors, Djourdjoura, elle espère que ça va changer. Elle a même l'air de dire que c'est déjà différent. Espérons-le. Alors, je vous le disais au tout début, Djourdjoura, depuis son existence, est interdite en Algérie. Comment se fait-il ? Il n'empêche que, malgré cette interdiction, les gens piratent quand même les cassettes du groupe Djourdjoura.
C'est pas en Algérie, c'est quand même assez significatif. Parce que ça ne répond pas à la politique actuelle de l'Algérie. Et accepter Djourdjoura en Algérie, ça voudrait dire déjà... accepter déjà une certaine émancipation de la femme. Et je crois qu'on n'est pas prêt pour cela.
Justement, je voulais vous demander, vous êtes interdite, Djourdjoura ne peut pas chanter en Algérie depuis 1979, que craint le gouvernement ?
Depuis que nous existons, nous ne sommes jamais rentrés en Algérie, et cela va faire effectivement bientôt 10 ans, et que craint le gouvernement algérien ? Je ne sais pas. En réalité, il nous donne peut-être beaucoup plus d'importance qu'en réalité nous en avons, parce que bon, nous parlons de la cause des femmes, de la justice sociale, de la liberté surtout, et de la liberté d'opinion, du droit d'expression. Et alors, le gouvernement a cru très longtemps que nous étions des opposantes de l'Algérie. Nous n'avons jamais fait partie d'aucun parti politique, nous n'avons fait que dénoncer les choses qui sont élémentaires, nécessaires à la vie des femmes d'aujourd'hui. C'est tout, on a voulu donner une image de la femme moderne algérienne, qui n'est absolument pas celle que le pouvoir nous renvoie.
Et puis les revendications kabyles peut-être aussi, le peuple berbère ?
Ça c'est quand même la moindre des choses. Moi déjà je suis kabyle, donc je suis... c'est ma langue maternelle, donc c'est tout à fait normal. Je parle cette langue et le français parce que je suis venue très jeune en France. Mais au-delà de cela, il faut dire aussi que le peuple berbère est le premier peuple habitant de l'Algérie et... je pense que nier le passé, eh bien, c'est occulter l'histoire et on ne peut pas aller de l'avant en reniant son passé. C'est impossible.
Dans les autres pays qui sont aussi d'origine maghrébine et berbère, vous avez l'impression que vous donnez un petit peu une énergie aux gens qui se retrouvent, qui retrouvent une conscience de leur peuple et de leur culture ?
Ah oui, par exemple, nous n'avions même pas encore de disque que nous sommes allés en Tunisie. Et nous avons eu un succès terrible. Enfin, je suis vraiment, vraiment contente de ce qui s'était passé en Tunisie, parce que j'ai rencontré là un peuple qui était arabophone, qui parlait l'arabe, mais alors, ils ont traduit nos chansons, ils les ont reçues, les gens étaient debout dans un, vous savez, au festival de Carthage, où il y a quand même 12 000 personnes. Nous avons fait plusieurs villes comme ça de Tunisie, et nous avons été accueillis d'une façon extraordinaire, et je veux dire que le message est passé. Bon, pareil au Maroc, où on a été première au top 50 l'été dernier. Dans beaucoup de pays comme ça, ça marche très fort. On est allé à l'étranger, au Gabon, beaucoup en Europe, et puis en France, évidemment. Et là, on a toujours rencontré, même quand nous chantions donc dans la langue berbère et qu'on n'était pas forcément compris avec les mots, mais il y avait l'émotion qui passait, il y avait une compréhension quand même chez les gens. Et ça a été à chaque fois formidable. Alors voilà, il reste l'Algérie, on la regarde de loin, et puis en espérant que bientôt les choses vont aboutir.
Votre chanson qui s'appelle « La liberté se chante », où vous dites « J'ai attendu votre soutien, frère », c'est aux Algériens que vous vous adressez ?
Tout à fait. Tout à fait, parce que malheureusement, nous sommes une communauté, et je vais dire c'est presque ancestral, c'est une communauté qui ne se soutient pas. Alors, c'est terrible d'avouer une chose pareille, parce que moi, quand j'ai commencé mon métier, je pensais que les gens qui faisaient le même métier que moi seraient solidaires. Et j'ai attendu cette solidarité, je suis allée même la chercher, mais même sans cette solidarité, au moins une amitié, une compréhension, un petit clin d'œil, un encouragement. Non, eh bien, je l'ai trouvé auprès du public, et je ne l'ai pas rencontré chez les compatriotes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une contradiction aussi encore dans leur tête, nous sommes des femmes, et il y a encore des barrières, est-ce pour autre chose? Mais en tous les cas, je l'ai vu à tous les niveaux, même dans les familles, même chez les hommes politiques, même ailleurs. En tous les cas, c'est ce qu'on doit regretter, c'est que c'est une communauté qui ne se serre pas la main. Et je crois que c'est pour ça que nous en sommes là.
Que faire là ou ailleurs, alors que la vie n'est que du prix? Je cherche un frère, un ami, et mes yeux rencontrent le néant. J'aime mon pays, j'aime les miens, mais je hais la jalousie.
Azlaki tazel dhaka adouni taqid l'akhdi'a. J'ai lu, je ne sais pas à quel point ça a de l'importance ou c'est qu'un petit détail, qu'on vous reproche entre autres par exemple de dire mais qu'est-ce qu'elle parle de la femme algérienne, de toute façon elle vit en France, qu'est-ce qu'elle en sait, ou bien qu'est-ce qu'elles en savent, ou bien elle chante dans la langue berbère, elle parle de culture berbère, mais en fait leur musique est à moitié-moitié avec des sonorités très modernes. C'est un petit peu une critique aussi de ce genre qui...
Et puis moi je trouve que ces critiques ne sont pas fondées et c'est vraiment pour dire quelque chose, parce que si vous reprenez point par point, quoique moi je fais mon travail et puis je suis mon chemin, parce que si je m'attache à ces genres de considérations, vous savez, on ne va pas très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que il devrait être fier, parce que moi je suis partie très jeune de mon pays, je connaissais à peine ma langue. Bon, j'avais ma langue maternelle, c'est la seule que je parlais, mais quand même, à 5 ans, arriver dans un pays que vous ne connaissez pas et se débrouiller dans une culture et ne pas oublier la sienne, et quand vous arrivez à l'âge de l'adolescence, retourner dans son pays aux sources pour créer soi-même ses chansons et ses musiques, essayer de l'adapter au goût du jour parce que justement on existe et qu'on a envie d'annoblir notre culture et de donner une image de la femme qui soit belle et de l'Algérie qui soit belle. Parce que je vais vous dire, si on avait donné une image de l'Algérie de misérabiliste, de, vous savez, ces femmes qui regardent par terre toujours, je crois que les gens n'auraient pas été contents. Alors, je trouve qu'il y a là un peu de mauvaise foi. Quant à la musique que nous avons modernisée, c'est le goût de chacun. Moi, je fais de la musique, j'ai des sentiments, j'ai un sens de l'esthétique. Et je veux travailler avec ma sensibilité, avec ce qui me plaît. Je ne veux pas faire un folklore, parce que pour moi, le folklore, c'est figé. Je suis au XXe siècle, je ne veux pas chanter des choses du XVIIIe siècle ou du Ve siècle, pour pas retourner encore à l'homme des cavernes. Vous comprenez? Alors, je garde quand même le patrimoine que j'ai reçu de mes grands-mères, de toutes ces vieilles qui détiennent la culture populaire. Et j'en suis fière, alors je la garde au plus profond de moi-même et je la mets dans mes chansons. Mais j'essaie de l'enrichir de ma personnalité. Je ne veux pas simplement copier ce qu'a fait Pierre, Paul ou Jacques. Je veux apporter une note à moi.
À la jeunesse d'Algérie, et oui, même quand on est en France, comme Joura, on peut s'émouvoir de ce que la jeunesse algérienne a vécu. Enfant d'Algérie, vous recherchez la paix. Mieux vaut la mort que vivre sans dignité. Que votre dernier disque qui s'appelle Défi, donc en fait, vie de et on parlera toujours de ce qu'on veut parler, si ça dérange. Vous avez écrit celle, je chante, je dédie ce disque à celle qui a été privée du bienfait de l'amour, du bienfait de la science, du bienfait de la liberté, à cette créature méprisée, à la nature. Je trouve ça très très beau, c'est une de vos préoccupations tout le temps, mais où est-ce que vous puisez cette énergie pour continuer à briser le silence, continuer à défier aussi bien ceux qui vous critiquent que l'humanité, l'oppression, le pouvoir?
Ça, c'est l'énergie de ceux qui souffrent.
C'est bien fait de la liberté à cette créature méprisée. Je trouve ça très très beau, c'est une de vos préoccupations tout le temps, mais où est-ce que vous et à cette créature méprisée, la femme du monde. Je trouve ça très très beau, c'est une de vos préoccupations tout le temps, mais que vous puissiez. Ça, d'après vous, c'est une de vos préoccupations tout le temps, mais... Je trouve ça très très beau. C'est une de vos préoccupations tout le temps.